Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Tony Meillon, la mauvaise rencontre de Laetitia. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Guillaume Maury, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
L'affaire Tony Meillon, une incroyable affaire à tiroir. D'abord, il y a eu la mort de Laetitia Perret, 18 ans, poignardée, démembrée, par un homme tellement violent qu'il terrorisait même sa mère.
On savait qu'il se serait passé quelque chose de grave. Mais franchement, je pensais plutôt qu'il s'en serait pris qu'à moi.
Puis il y a eu le scandale, car Tony Meillon sortait de prison quand il a tué Laetitia. Inadmissible pour le chef de l'État de l'époque qui a dénoncé une faute de la justice et qui s'est mis à dos toute la magistrature. Enfin, alors que la polémique faisait rage, une autre affaire a éclaté. Cette fois, c'est la famille d'accueil de Laetitia qui a plongé au cœur de la tourmente.
Pornic, 19 janvier 2011. L'heure de se lever pour la famille patron. Gilles fait le tour des chambres pour réveiller les enfants.
Maître Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia Perret.
Et immédiatement, il découvre que Laetitia n'est pas dans sa chambre. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement anormal. Ça ne correspond pas à Laetitia. Il peut tout arriver dans la vie, mais Laetitia, elle ne découchait pas. Elle était toujours précise sur les horaires. Et si elle avait 5 minutes de retard, elle téléphonait pour prévenir. Et à cet instant où il voit que Laetitia n'est pas dans sa chambre, il se rappelle un petit incident de la nuit, vers 1 ou 2 heures du matin. Un bruit de choc l'a réveillé. Ne sachant pas ce qui se passe, il s'est levé. Il ne voit rien, il retourne se coucher. Au petit matin, voyant que Laetitia n'est pas là, il se remémore ce choc. Dans les instants qui suivent, Jessica, la sœur de Laetitia, sort dans la rue et repère le scooter de Laetitia.
Le scooter avec lequel Laetitia rentrait tous les soirs chez elle est couché sur le côté droit.
La clé de contact en position de fonctionnement, la paire de chaussures de Laetitia à côté du scooter. Le scooter est à quelques dizaines de mètres du domicile familial.
Laetitia a tout juste 18 ans.
Colonel Fabrice Bouillet, commandant de la section de recherche d'Angers.
Il s'agit d'une disparition inquiétante d'une jeune femme. Donc on se laisse déjà guider par ces premiers renseignements qui nous disent, enfin nous laissent entendre que l'affaire ne sent pas bon, comme on dit chez nous.
Et en examinant le scooter de plus près, l'inquiétude augmente encore.
Les premiers éléments font apparaître qu'il y a des traces de pneumatiques qui accompagnent le scooter. Et il y a des traces de ripage sur une vingtaine de mètres. Les optiques du scooter ne sont pas abîmées. Donc avant et arrière, ils sont intacts. Donc ça laisse entendre que le scooter a été accompagné dans sa chute. Vu les circonstances, on va tout de suite dépêcher des moyens de recherche opérationnels, notamment des chiens de piste, dont un Saint-Hubert, qui sont des chiens assez, assez rares en gendarmerie, mais qui ont un flair qui est décuplé par rapport à nos bergers allemands. Ce chien-là va arrêter sa piste en fait, aux abords du scooter. Il ne reprendra jamais quelconque piste, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a effectivement enlèvement.
Les gendarmes sont encore moins rassurés en examinant les affaires de Laetitia.
Pierre-François Martineau, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nantes.
Dans la chambre de Laetitia, les gendarmes découvrent des lettres qu'on a appelées lettres testamentaires, qui sont des lettres manuscrites qui révèlent, qui ont été écrites fin décembre 2010, donc quelques jours auparavant, et qui révèlent un mal-être de Laetitia, des idées noires, des idées de mort.
À mon enterrement, je voudrais que tous les gens que je connais soient là.
Ce sont des courriers par lesquels elle organise la distribution de ses biens après son décès.
C'est assez troublant et c'est une surprise extrêmement importante pour la famille Patron qui n'avait pas idée qu'elle pouvait avoir ses pensées suicidaires.
Jessica, sa sœur jumelle, ne connaissait pas l'existence de ces lettres.
Maître Cécile de Oliveira, avocate de Jessica Perret.
Jessica indique que sa sœur est une jeune fille très, très secrète. Et cette manière très secrète d'être de Laetitia, elle vient, je l'imagine, d'une enfance et d'une adolescence dans laquelle on a plutôt intérêt à se taire et à taire les drames successifs qu'on traverse.
Parce que des épreuves, les deux filles en ont déjà beaucoup connu. Elles avaient à peine 6 ans quand leur famille a éclaté.
Leur père est extrêmement violent à l'égard de leur mère et va être condamné par la cour d'assises pour des viols sur leur mère. Les petites filles vont être placées et elles vont rapidement avoir des relations difficiles avec leurs parents. Leur maman est très manifestement traumatisée par les crimes que le père des enfants lui a imposés.
À 8 ans, Laetitia et Jessica sont tout d'abord placées en foyer. Puis à 13 ans, les jumelles sont accueillies à Pornic dans une nouvelle famille, Gilles et Michel Patron. Une famille d'accueil avec laquelle elles tentent de se reconstruire.
Franck Perret, vous êtes le père des jumelles Laetitia et Jessica. Comment avez-vous appris la disparition de votre fille ?
Par le conseil général, j'ai appris la nouvelle. C'est là qu'on m'a appris que ma fille, elle était enlevée. Et le jour même, j'étais à gendarmerie, questionné, bien sûr. Et au début, on est suspect. On demande des comptes. En tant que gendarme, ça, c'est normal. Ils font leur travail. Et on est obligé où c'est qu'on était, l'emploi du temps et tout, après.
Vous, à ce moment-là, vous êtes, j'imagine, paniqué quand on vous apprend ça ?
Oui, très paniqué. Il fallait que je sache automatiquement qu'est-ce qui s'était passé.
Au moment de sa disparition, est-ce que vous voyez sa sœur, Jessica ?
Oui, j'ai vu Jessica, moi, qui était en larmes, qui était, elle n'était plus elle-même.
Dans la chambre de Laetitia, les gendarmes ont retrouvé des lettres dans lesquelles elle parle de sa mort.
Oui, mais je ne crois pas.
Mais vous saviez que votre fille pouvait être à ce point, par moment, triste ?
Triste, oui, mais à ce point, se tuer, non, parce que Laetitia voulait revenir dans la famille, habiter son nom.
Avec vous ? Elle voulait habiter avec vous ?
Oui, elle voulait revenir son nom.
Vous l'avez dit ?
Oui.
Vous aviez gardé un lien avec Laetitia et sa sœur Jessica ?
J'allais les voir, sur Pornic ou soit, j'allais les chercher et les ramener sur Nantes. Ça veut dire chez moi, où on allait chez mon frère, où on se baladait sur Pornic quand il faisait bon, on allait à la plage à Pornic. Même au téléphone, ça va les filles, comment ça se passe l'école.
Vous leur téléphoniez souvent ?
Oui. Tous les 15 jours, je téléphonais à mes enfants.
Et comment elle allait, Laetitia ?
Très très bien. Elle travaillait dans la restauration.
Vous étiez allé la voir ?
Oui. Puis je l'avais vue travailler. J'étais heureux de voir, au moins. Ma fille travaillait, j'ai dit, voilà. Puis moi, j'étais très fier d'elle.
Les gendarmes, comme la famille de Laetitia, savent que les minutes sont comptées. Il faut faire vite pour retrouver Laetitia vivante.
Laetitia Perret travaille à l'hôtel de Nantes, au lieu-dit la Bernerie en Ray, une station balnéaire de Loire-Atlantique. Le restaurant est à 2,5 km de sa maison. Un trajet qu'elle parcourt chaque jour en scooter.
Colonel Fabrice Bouillet, commandant de la section de recherche d'Angers.
Laetitia paraît une fille quand même relativement bien rangée. L'emploi du temps qu'on va nous décrire est assez réglé. Elle quitte le matin entre 10h30 et 10h45 son domicile. Elle se rend à l'hôtel de Nantes où elle va prendre son service de midi à 15h. À 15h, elle va quitter son service. On sait qu'elle doit appeler, si elle reste sur la bernerie, elle doit absolument appeler Michel Patron pour lui dire qu'elle reste sur la bernerie, qu'elle ne rentre pas à la maison. Donc elle est, entre guillemets, disciplinée.
Et ce 19 janvier, Laetitia a bien appelé. Elle avait décidé de passer l'après-midi à la bernerie en Ray, où elle a retrouvé un de ses copains, Jocelyn.
On sait pertinemment que Laetitia Perret aura un rapport sexuel à ce moment-là. De son emploi du temps, en fait, on va la perdre. C'est-à-dire qu'entre, on va dire, entre 16h30 et 18h30, on ne sait pas ce qu'elle fait à ce moment-là de l'enquête.
Sa trace, les gendarmes la retrouvent à 18h30, l'heure à laquelle Laetitia a repris son service. Elle avait quitté Jocelyn et sa patronne l'a aperçue avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant.
Madame Deslandes va avoir un échange verbal avec ce grand gaillard qui n'a pas d'accent, mais dont elle va nous donner une description. Les tempes rasées, les cheveux longs, rabattus sur le crâne. Quelqu'un d'assez costaud, d'assez baraqué, 1m80, 1m85.
Maître Pascal Rouillet, avocat de la famille d'accueil de Laetitia Perret.
Il est sensiblement plus âgé qu'elle. Encore une fois, elle a 18 ans, il en a deux fois plus. C'est quelqu'un qui a un visage marqué. C'est quelqu'un qui fait un peu, effectivement, caïd, bad boy. Et il s'enlace, ou plutôt il l'enlace, pour des baisers, des gestes de tendresse. Or, on ne le connaissait pas la veille. C'est quand même très étonnant que le jour de sa disparition apparaisse pour la première fois, semble-t-il, dans sa vie, ce garçon aux allures de bad boy.
Laetitia termine son service vers 22h30. Habituellement, elle fait la route du retour avec un de ses collègues. Mais ce soir-là, elle voulait sortir. Il est donc rentré tout seul.
Pierre-François Martineau, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nantes.
Il part en scooter et il explique qu'il est rattrapé par une voiture, doublée par une voiture, une 106 blanche, qui le serre sur le côté, qui l'oblige à s'arrêter. Et un homme très excité, très énervé, en sort et lui demande de manière agressive « Où est Laetitia ?»
Ben, elle est toujours à l'hôtel de Nantes. Et l'homme, dans la voiture blanche, veut dire « J'espère ». Et il repart, il fait demi-tour en trombe pour repartir vers l'hôtel de Nantes, donc très agacé.
Les gendarmes recueillent un dernier témoignage intéressant, celui du fils des propriétaires de l'hôtel de Nantes.
Il verra Laetitia Perret entre 1h et 1h15 du matin se disputer avec un homme qui conduit une voiture de couleur blanche qui est à bord de son véhicule, il est en poste de conducteur. Et Laetitia Perret est à l'extérieur, son casque sous la main, avec une discussion assez houleuse. Et la voiture va partir de son côté, Laetitia va partir de son côté en scooter. Et Anthony va lui dire « mais je vois la voiture faire demi-tour en trombe et tenter de repartir dans la direction prise par le scooter ». Et là, on perd évidemment la trace de tout témoignage.
La téléphonie de Laetitia montre qu'elle a échangé près de 80 textos dans l'après-midi avec William, son meilleur ami.
Ce qui ressort de ces messages, c'est qu'elle passe une bonne soirée, qu'elle est accompagnée, mais bon, c'est plutôt festif. Et puis, à partir de 0h12, Laetitia Perret ne répond plus aux messages de William. Laetitia ne reprendra contact qu'à 0h32 en lui envoyant un message, en lui disant « j'ai un truc grave à te dire ». Elle ne veut pas en parler là par SMS et c'est plus tard, à 0h58, qu'elle le rappelle.
Et là, elle va lui dire « je me suis fait violer ». Et ça va s'arrêter là puisqu'elle est à quelques minutes de chez elle, a priori, à 2 km. En tous les cas, c'est ce qu'elle indique, qu'elle n'a presque plus de batterie et qu'elle va le rappeler quand elle sera de nouveau chez elle.
Et tout s'arrête brutalement vers 1h du matin, et donc à proximité immédiate du domicile, c'est-à-dire qu'elle a vraisemblablement été enlevée au moment où elle arrivait. Elle était à quelques secondes de se stationner pour aller se coucher.
Cela fait maintenant 12 heures que tout le monde cherche Laetitia. Les gendarmes s'accrochent à leur premier indice, cet homme aux allures de mauvais garçon avec qui elle a été vue, le bar où ils auraient pu passer la soirée ensemble, le Barbe Blues. C'est le seul établissement encore ouvert en hiver quand les vacanciers désertent la Bernerie en Ray.
Des photos de la petite et le portrait robot de l'inconnu en main, les gendarmes foncent au bar du village. Un client du Barbe Blues reconnaît Laetitia. Elle est bien venue la veille, vers 22h, avec un homme à la sale gueule, le type du portrait robot.
Ce client-là va très clairement assister à une scène d'altercation entre cet homme qui est un des clients du Barbe Blues. Laetitia va être décrite comme pas à l'aise du tout. Elle est un peu déconfite. L'homme qui l'accompagne va l'emmener. Ils vont partir en voiture ensemble.
Du coup, les gendarmes secouent leur tonton, comme ils disent. Autrement dit, leurs indiques. Et ça marche. Le type qu'ils cherchent, c'est Tony. Tony Meillon. Il fréquente le bar depuis quelques semaines et ce n'est pas un tendre.
Il est consommateur de stupéfiants, il peut être violent et surtout, il peut être imprévisible. Voilà, ce sont les éléments généraux qu'il nous décrit. Donc quand on a son nom à 18h30, le 19, tout va tourner ensuite pour essayer de savoir qui il est, où est-ce qu'il vit, de manière à pouvoir lui mettre la main dessus.
Les gendarmes plongent dans leur fichier. Tony Meillon, un gars de la région, sans emploi, 31 ans, mais déjà un beau palmarès. Son casier judiciaire fait 6 pages. Il est même inscrit au FIGES, le fichier des délinquants sexuels, de quoi donner des sueurs froides.
Tony Meillon était connu dans les différentes bases de données police-justice par rapport à un parcours de délinquance depuis l'enfance, de petite délinquance, et puis deux condamnations en cour d'assises, une pour viol et l'autre pour des vols à main armée en 2005. Entre 1996 et 2010, il avait exécuté plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée cumulée était de 11 ans. Il venait donc de passer une longue période en incarcération et est sorti quelques mois plus tôt.
De plus en plus inquiets, les gendarmes foncent chez sa dernière petite amie.
Elle l'a mis dehors de sa maison fin décembre, juste un peu avant Noël, parce qu'il a essayé de lui imposer un rapport sexuel. Donc ça s'est pas très bien passé et il a été prié de partir.
Manifestement, la prison n'a pas assagi Tony Meillon.
Et surtout, elle nous indique qu'il a une addiction pour le sexe. Très clairement, il est très porté sur la jauge et il considère ses conquêtes féminines comme des dossiers.
Quant à la famille de Meillon, elle est carrément terrorisée par cet homme capable de s'en prendre à sa propre mère.
La mère de Tony Meillon
m'a séquestrée avec un pistolet. Ici ou sur la tombe, je me rappelle plus, j'étais tellement choquée que j'avais sa petite sœur. Et donc je lui avais supplié de me lâcher, de me laisser partir.
Julia, la sœur de Tony Meillon.
En fait, quand c'est comme ça, faut se taire, quoi. Lui dire, allez, arrête, c'est bon, calme-toi, on t'aime, arrête, s'il te plaît. Presque se mettre à genoux, finalement. Se mettre à genoux pour s'excuser de quelque chose, en fait, qu'on n'a pas fait.
Impulsif, violent, sadique, Le tableau a de quoi inquiéter. À 23h, les gendarmes ont récupéré trois adresses où Meillon pourrait se cacher. Ils repèrent des signes de présence dans l'une d'elles, au lieu-dit de Caspo, chez un cousin qu'il héberge souvent. Ils savent que l'homme est certainement armé.
Le commandant de la section de recherche d'Angers attend l'heure légale pour intervenir avec de gros moyens.
L'individu est violent, il a déjà violé, il est réputé être armé et consomme des stupéfiants de façon quotidienne et assez importante. Cannabis, cocaïne. N'importe quel moment, il peut péter un plomb et finalement attenter au jour de Laetitia, voir s'il se sent agressé, réagir avec arme. L'analyse est assez vite faite. On part sur une prise d'otage potentielle, une séquestration violente, avec possiblement un passage à l'acte, avec un homicide volontaire. Donc, nous ne raisonnons pas trop longtemps et nous faisons appel au GIGN. Et à 6h25, la colonne d'assaut du GIGN va pénétrer au lieu-dit Caspo. Lorsque le GIGN pénètre dans la maison, le barillet de la porte va être projeté, malheureusement, à l'endroit où se trouve Tony Meillon. Il couche sur un canapé qui est à 7 mètres de l'entrée de la maison et il va se lever parce qu'il entend la colonne d'assaut arriver, probablement. Son fusil se trouve, 22 longs rifles, se trouve à côté de la porte. Donc, on imagine qu'il se précipite pour aller le récupérer et c'est là qu'il va ramasser ce fameux barillet et quelques débris de la porte en pleine figure. Donc il va être méconnaissable dans un premier temps. Nous allons prélever ces empreintes digitales et c'est ces empreintes digitales qui vont nous amener à confirmer que nous avons bien interpellé Tony Meillon.
Mais la maison est vide.
Et là, malheureusement, Laetitia ne donne pas signe de vie, elle n'est pas présente. Dans le hangar attenant, on trouve la 106, la fameuse 106 de couleur blanche. La banquette arrière a été démontée et elle est maculée de sang. Le coffre est rempli de taches de sang qui ont été lessivées, essuyées à la va-vite, ça se voit. Et lorsque les techniciens en identification criminelle vont intervenir, leur diagnostic sera formel. Laetitia a perdu trop de sang pour être encore vivante.
Dominique, pendant que Meillon est aux urgences, les gendarmes vont continuer la perquisition de la maison et ils vont employer les grands moyens.
Oui, gros dispositif avec un laboratoire mobile qui descend depuis Paris, c'est un autobus, avec tout le matériel pour faire des prélèvements et pour les conserver. La perquisition va durer 48 heures. D'abord, la voiture, la Peugeot 106 blanche volée par Tony Meillon. Il y a, dans le coffre, du sang, c'est le sang de Laetitia. Les empreintes digitales de Laetitia sur le toit, côté conducteur. Elle a pu s'appuyer pour parler au conducteur. L'ADN de Laetitia mélangé à celui de Tony Meillon sur la carrosserie de la voiture, sur la portière conducteur, sur le volant et sur la banquette arrière. Un peu plus loin, il y a un hangar. Dans le hangar, le sang de Laetitia sur le côté d'un meuble et sur un mur. On va découvrir aussi une scie. Et puis, sur la terrasse de la maison, il y a un merlin. Le merlin, c'est une hache avec un côté qui sert de masse et l'autre côté pointu pour couper comme une lame de hache. Dessus, le sang de Laetitia. Dans un caddie qui a été utilisé pour faire du feu, on retrouve donc des cendres. Le feu a été activé par de l'hydrocarbure. Ça sent encore quand les gendarmes arrivent sur place. On va ramasser toutes les cendres, tamiser ces cendres. Il y a des restes d'une scie à métaux, un bout de lame de couteau, une vieille hache, mais surtout des petits morceaux métalliques, une agrafe de soutien-gorge et puis une attache de boucle d'oreille, une seule. Celle-ci à gauche et à droite, on va retrouver au domicile de Laetitia l'autre boucle d'oreille. Donc, c'est bien la boucle d'oreille de Laetitia. Et dans ses cendres, il y a aussi les restes de la jugulaire du casque de moto de Laetitia. Et surtout, surtout, des cordelettes noires et un grillage. Et ça, ça va avoir une importance pour la suite de l'enquête.
En fait, on peut penser que Meillon était en train d'effacer les preuves de son crime.
Oui, à l'évidence, il s'apprêtait à brûler cette voiture qu'il avait volée. Et il avait commencé aussi à creuser un trou pour y cacher quelque chose. On va découvrir ce trou sur un terrain voisin. Il a creusé 40 cm environ, mais la terre est tellement dure, elle est gelée à cette époque de l'année, qu'il est obligé de s'arrêter.
Trois heures après son interpellation, c'est un homme rompu au garde à vue qui s'assoit en face des gendarmes. Son arrestation a été musclée, mais Meillon bombe encore le torse.
Colonel Fabrice Bouillet, commandant de la section de recherche d'Angers.
Donc c'est un jeu, entre guillemets, entre lui et les enquêteurs, à savoir, voilà ce que nous avons. Vous voyez qu'on a quand même du solide. Hein, on a des témoignages qui vous positionnent à tel endroit, à telle heure. On a des témoignages de votre famille, d'amis qui vous décrivent de telle façon. Est-ce que vous confirmez ?
Réponse de Meillon, le silence, pendant plusieurs heures. Quand enfin, à 18h30, après 7 heures de garde à vue, poussé dans ses retranchements, l'homme s'agace. Et pour finir, il s'explique.
Par rapport à tous les éléments qu'on va lui présenter, il va nous donner sa version des faits. La version des faits, pour lui, c'est qu'il avait des gants qu'il avait achetés à Laetitia Perret, il lui en avait donné une paire lorsqu'ils se sont séparés. Je suis parti de mon côté et je me suis rendu compte qu'elle avait oublié la deuxième paire de gants. Donc j'ai fait demi-tour et je l'ai rattrapé. Et là, il va nous raconter l'histoire d'un mégot de cigarette qui était en train de se consumer sur le côté passager. Et en se baissant, il va perdre le contrôle de son véhicule et qui va aller taper fortuitement le scooter.
Pierre-François Martineau, juge d'instruction, tribunal judiciaire de Nantes.
Il s'agissait d'un accident de circulation qui l'avait percuté, qu'elle était morte, hein, qu'il y avait du sang qui s'écoulait de son visage, de son casque. Et sous l'effet de la panique, il a chargé le corps dans la voiture.
Il panique parce qu'il se sait recherché pour le vol de ce véhicule. Il a déjà fait de la prison. Il a un casier judiciaire qui est quand même assez important. Il n'a pas envie de retourner en prison. Donc il nous indique que voilà, il la met dans le coffre et il part chez lui. Et c'est là que, pris par le diable m'a pris. Il fallait que je fasse disparaître les traces. Et donc je l'ai jeté par le pont de Saint-Nazaire. Voilà la version de Tony Meillon telle qu'elle va être jusqu'à la fin de sa garde à vue. Puisque après cette déclaration, il ne dira plus rien jusqu'à son déferrement.
Mais les gendarmes doutent.
Nous avons relancé des investigations très poussées sur la zone de découverte du scooter. Il n'y a aucune trace de sang qui ont été révélées à l'endroit où le scooter a été déposé. Donc si elle avait été pleine de sang ou si elle s'était vraiment vidée de son sang à cet endroit-là, forcément nous l'aurions vu.
Puisque Tony Meillon se tait, les gendarmes cherchent de nouveaux témoignages pour retracer son emploi du temps l'après-midi qui a suivi la disparition de Laetitia. Il retrouve Nicolas, un ancien codétenu. Manifestement, c'est la dernière personne qu'il a croisée avant son arrestation. Placé en garde à vue, l'homme raconte que ce jour-là, Tony lui a donné rendez-vous sur le parking d'un supermarché.
Et là, Tony Meillon est décrit blême, plein de boue, couvert de boue, les mains complètement défaites et affolées, l'air paranoïaque. Les caméras de vidéosurveillance, il les regarde, il dit à son acolyte, il pose la question de savoir s'il n'a pas été suivi par les policiers. Il est très inquiet.
D'ailleurs, les images de vidéosurveillance le confirment.
Il nous décrit un Tony Meillon très excité, très agité, manifestement sous l'emprise de produits ou d'alcool, et qui lui explique avoir renversé un automobiliste, avoir coupé le corps en morceaux, avoir besoin de son aide pour l'aider, cet ami. reste un peu distant, reste méfiant, s'approche pas de la voiture, mais néanmoins voit à travers la lunette arrière hein, de la 106 deux poubelles noires empilées et un rouleau de grillage. Donc il refuse d'aider Tony Meillon et Tony Meillon lui demande quand même de se débarrasser, de jeter la batterie du téléphone, une batterie de téléphone portable, ce que fait cet ami. Et la batterie sera retrouvée plus tard par les enquêteurs et identifiée comme étant celle du téléphone de Laetitia Perret.
Évidemment, là on a une autre idée de ce qu'a pu faire Tony Meillon. Le pont de Saint-Nazaire s'éloigne de plus en plus par rapport à une autre version qui nous paraît beaucoup plus crédible, par rapport aux éléments que nous avons constatés en termes de criminalistique, donc de police technique et scientifique, entre les traces de sang, les objets de découpe, ce que nous avons redécouvert sur la scène de crime.
Les gendarmes mettent ce nouvel élément sous le nez de Meillon.
Les enquêteurs vont avoir de cesse de lui poser des questions pour aller dans le sens du découpage, en le remettant en perspective, ce témoignage clé. Tony Meillon se taira.
Stéphane Cantero, vous serez l'avocat général en appel dans cette affaire. Dans ses premières déclarations, Tony Meillon parle d'un accident. Le juge d'instruction va donc nommer un expert accidentologue qui va dire quoi ?
Qui va démentir la version de Tony Meillon en décrivant une approche, en fait, avec une manœuvre d'un véhicule qui s'approche, a pris une direction de 10 degrés pour rabattre le scooter vers la chaussée et ensuite, pour percuter et faire chuter le scooter. Toutes les constatations autour de cette scène et sur le scooter nous montrent qu'il n'y a pas eu d'accident tel que décrit, que c'est vraiment
par exemple, quelle constatation ?
Un frottement plus qu'un choc. Alors, très vite, hein, les hypothèses qui se dégagent de l'enquête, puisqu'on est au stade de l'enquête, c'est l'enlèvement. C'est que, puisqu'on retrouve ensuite le scooter, la clé sur le Neyman, et on ne voit aucune trace de lutte ou de départ du conducteur du scooter, d'un coup, on perd toute la trace de Laetitia.
Vers minuit, Laetitia a confié à un de ses meilleurs amis qu'elle avait été violée. Vous pensez qu'elle parle de Tony Meillon ?
On a du mal à imaginer de qui d'autre elle pourrait parler, puisque depuis le tout début de la soirée, ils ne sont qu'ensemble.
Tony Meillon explique comment ils se sont rencontrés ?
Sur la plage, l'après-midi même.
La téléphonie révèle aussi que Tony Meillon lui a envoyé un message à 4h17 en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il disait, ce message ?
Je suis désolé d'avoir été si insistant. Ce n'est pas mon habitude. On se retrouvera. Voilà. Pour moi, c'est déjà, il sait qu'elle est morte. Et il prépare déjà un alibi parce qu'il sait qu'il y a plein de témoins qui vont dire qu'ils ont passé leur soirée ensemble et que c'est sans doute la dernière personne à l'avoir vue vivante.
Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Tony Meillon, la mauvaise rencontre de Laetitia. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2. Bonjour. C'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac, vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.